La première chose qu'elle avait faite après avoir reçu officiellement les clés de la maison avait été de mettre en vente son appartement new-yorkais. Son ex-mari, Carson Anderson, lui avait répété à quel point il trouvait cela précipité et ridicule, puisqu'elle ne savait même pas si elle se plairait dans le Massachusetts. Mais Melissa était têtue, et pas du genre à faire marche arrière. En prenant cette décision, elle avait semblé si sûre d'elle. Et elle avait eu raison de s'écouter. Elle avait toujours désiré acheter une propriété à la campagne et quitter la grande ville. À ce jour, elle n'avait jamais regretté de l'avoir fait. Elle aimait passionnément ces vieux murs qui avaient bouleversé sa vie, lui avaient redonné un sens. Les 4 années précédant l'achat de la maison avaient été les plus sombres de toute son existence. Il lui arrivait encore d'y penser, assise sur la galerie de bois. L'épreuve que son mari et elle avaient traversée dépassait l'entendement. On avait diagnostiqué une tumeur au cerveau à leur petit garçon de 8 ans, Robbie. Un glioblastome, comme disaient les médecins. Carson et Melissa avaient tout essayé. En quelques semaines, ils avaient fait l'impossible pour que l'enfant puisse consulter les meilleurs spécialistes des États-Unis. Ils s'étaient également rendus jusqu'en Angleterre pour voir un grand chirurgien. Hélas, le diagnostic était toujours le même. Aucune opération ne viendrait à bout du cancer. On ne donnait à Robbie qu'un an à vivre, 2 maximum. Ses parents s'étaient alors efforcés de lui rendre la vie aussi belle que possible. Puis il s'était éteint, à 10 ans, dans les bras de sa mère. Et tout l'univers de Melissa s'était écroulé. Jusque-là, elle avait refusé d'admettre que son fils était condamné, se battant comme une lionne, tentant de trouver un traitement ou un chirurgien qui accepte d'opérer. Mais voilà, Robbie, son fils unique, avait disparu. Et elle avait soudain cessé d'être maman. Melissa Anderson avait passé les 2 années suivantes dans une sorte de brouillard, d'engourdissement et de demi-folie. Elle, qui était une célèbre écrivaine, auteure d'au moins 5 best-sellers, dont 2 adaptés au cinéma, elle avait renoncé à la littérature après la maladie de Robbie. Cela faisait maintenant 7 ans qu'elle avait juré de ne plus jamais reprendre la plume, alors que l'écriture représentait une part extrêmement importante de son existence. Désormais, Melissa se consacrait corps et âme à sa maison, et voulait en faire un modèle d'architecture victorienne. Elle avait abandonné tout ce qui avait compté dans sa vie, jusqu'à la compagnie de ses semblables. Il lui avait fallu trouver une échappatoire capable de soulager sa souffrance, sa rage et son chagrin. Se dévouer à un projet titanesque et se dépenser physiquement avait apaisé sa douleur. Elle était toujours la première sur le chantier, et aider les artisans à déplacer leurs outils et matériaux, à rénover les cheminées anciennes ainsi que les menuiseries. La demeure avait retrouvé son lustre et son éclat. Cuivre, carrelage, miroir, toutes les surfaces étincelaient. Le terrain était luxuriant et parfaitement entretenu. Melissa en était fière. C'était le symbole de sa résilience et un hommage à Robbie, qui aurait eu 16 ans cette année-là. Le décès de leur fils avait aussi mis fin au mariage de Melissa et Carson. Ils s'étaient battus ensemble contre la maladie, mais ils avaient échoué. Cet enfant avait été le seul être que Melissa ait profondément aimé. Avec le temps, elle avait appris à vivre avec la souffrance, comme on se résout à vivre avec des douleurs chroniques ou une arythmie cardiaque. Mais penser à sa disparition lui coupait littéralement le souffle. Son désespoir l'avait rendu quelque peu indifférente à l'espèce humaine. De son côté, Carson aussi avait le cœur brisé. Tous 2 s'étaient renfermés dans leur chagrin. trop anéantis pour se soutenir mutuellement. Ils avaient laissé leur couple se déliter. La deuxième année de deuil avait été encore pire que la première. À mesure que le brouillard de la sidération se dissipait, la conscience de la douleur se faisait plus vive. Puis un jour, Mélissa avait découvert que Carson fréquentait une autre femme, une auteure de l'agence littéraire où il travaillait. Elle ne lui avait pas reproché cette infidélité, dans la mesure où elle-même n'était plus qu'un fantôme. Il était trop tard. De son côté, elle n'avait jamais ressenti le besoin, ni même l'envie, de se tourner vers un autre homme. Mélissa n'avait d'ailleurs fait aucune tentative pour reconquérir Carson ou sauver son mariage. Plus rien n'avait d'importance puisqu'elle se sentait morte. Leur relation avait fait son temps. Mélissa avait rencontré Carson à 31 ans après avoir achevé le manuscrit de son premier roman. L'une de ses amies lui avait alors recommandé les services de Carson comme agent littéraire. Ce dernier avait été renversé par le talent de Mélissa, par la pureté et la puissance de son style. Il lui avait immédiatement proposé de travailler pour elle. Depuis la fin de ses études, Mélissa faisait des piges pour la presse, mais du jour au lendemain, sa vie avait changé grâce à Carson, qui avait su convaincre une très prestigieuse maison d'édition de publier son premier roman. Ils avaient célébré la signature de ce contrat en or, en trinquant toute la soirée au champagne, et ils avaient fini la nuit dans le même lit. Un an plus tard, ils s'étaient mariés, et 10 mois après la cérémonie, Robbie venait au monde. Jusqu'à la maladie du petit garçon, ils avaient vécu une vie de rêve. 11 ans de bonheur ensemble, c'était tout de même un joli bout de chemin. Si Carson était un agent influent et respecté, il restait modeste et ne s'était jamais attribué le mérite du succès fulgurant de Mélissa. Il la considérait même comme l'auteur le plus talentueux avec lequel il ait jamais travaillé. Lorsqu'elle avait arrêté l'écriture pour s'occuper de Robbie à plein temps, ni Carson ni elle n'avaient imaginé que cela signerait la fin de sa carrière. Le besoin viscéral d'écrire, qui l'habitait depuis l'adolescence, avait soudain volé en éclats. Les mots ont disparu avec Robbie, se justifiait-elle. Les encouragements de Carson et les supplications de ses éditeurs ne l'avaient pas fait changer d'avis. Elle avait laissé derrière elle son mari, sa célébrité, New York et toutes les personnes qu'elle y connaissait. Il n'y avait plus d'homme dans son existence et elle n'en voulait pas. Il ne restait plus qu'elle, sa maison, et tout était à reconstruire. Ainsi, en ce matin d'été, ponçant en plein soleil une porte ancienne à l'aide de papier de verre à grains fins, Mélissa était une femme de 49 ans qui avait commencé une nouvelle vie. Après le départ de Mélissa, l'aventure extra-conjugale de Carson s'était muée en une relation solide et durable. Jane, sa nouvelle compagne, était une auteure de polar à peine plus âgée que Mélissa. Elle avait 2 filles, avec lesquelles Carson avait noué une véritable complicité, comblant dans une certaine mesure son besoin de paternité. Il avait épousé Jane aussitôt le divorce prononcé. Mélissa lui avait présenté tous ses vœux de bonheur, mais n'avait pas cherché à rester en contact avec lui, si ce n'est pour lui envoyer chaque année une carte à la date de la mort de Robbie. Après la disparition de leur fils, ils s'étaient retrouvés sans rien en commun, et leurs souvenirs de leur mois de lutte contre la maladie étaient trop douloureux. Pour Mélissa, couper les ponts était aussi une manière d'échapper à son passé. Cette situation n'était pas nouvelle pour elle. Auparavant, elle avait déjà rompu presque toute relation avec sa jeune sœur Harriet. En tout cas, elle ne l'avait pas revue depuis les funérailles de Robbie. Elle estimait qu'elle n'avait plus rien à se dire ni à partager et refusait de gaspiller son temps avec leurs éternelles querelles. Hattie, c'était son surnom, avait selon Mélissa perdu les pédales 18 ans plus tôt.